Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, de nous revenons de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes, merci d'être fidèles à Nous n'avons qu'une terre sur Radio Divergence. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous nous envolons vers Madagascar, où nous allons retrouver une ONG, le GRET, et une de ses membres qui s'appelle Claire Caboret. Bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Une voix qui nous vient donc de loin et qui parfois peut souffrir un peu de défaillance sonore au cours de l'émission, vous ne nous en voudrez pas. D'abord, pourquoi nous avons choisi de vous parler de Madagascar ? Eh bien parce que cette grande île, très très grande île, et sans doute puisque c'est une des 4 plus grandes îles du monde, elle est sans doute une des terres aussi les plus pauvres du monde. Le travail des ONG y est donc indispensable. Et comme toutes les ONG, eh bien le GRET souffre des réductions financières d'ordre mondial, nous y reviendrons, mais le GRET est implanté là de longue date et y poursuit un travail qu'il nous semblait bon de saluer. Et puis le GRET travaille aussi, c'est ce qui fait notre lien avec Montpellier, mais travaille beaucoup avec le CIRAD, et je vous rappelle quand même que les chercheurs du CIRAD sont implantés à Montpellier. Alors faisons d'abord un petit détour par le dessous des cartes sur Arte pour mieux connaître Madagascar.
À 415 km des côtes du Mozambique, de l'autre côté du canal qui porte le même nom, voici Madagascar. Peuplée de 31 millions d'habitants, l'île s'étend sur 587 000 km², c'est-à-dire environ la taille de la France. La France, un pays voisin de Madagascar, via ses outre-mer. La Réunion se trouve en effet à 680 km des côtes malgaches, mais on trouve aussi dans la région des îlots appartenant à la France, dont certains sont revendiqués par Madagascar. Le plus proche d'entre eux, Juan de Nova, n'en est éloigné que de 130 km. Voici maintenant la capitale, Antananarivo, peuplée d'1,4 million d'habitants. 1960, c'est l'indépendance de Madagascar, après 64 ans de colonie française. Alors quelles sont aujourd'hui ses ressources ? Le tourisme représente en 2025 13% du PIB malgache. Madagascar, riche par ailleurs en ressources diverses, avec des réserves minières, nickel, or, cobalt, c'est aussi le premier producteur mondial de vanille et le premier exportateur de clous de girofle. L'agriculture représente 21% du PIB malgache, ce qui rend le pays très dépendant des aléas climatiques extrêmes, avec notamment de fortes sécheresses et des cyclones.
Du fait de son relief, Madagascar réunit aussi une véritable mosaïque de paysages. Alors l'île est faite de contrastes, on a le bush du Grand Sud, les forêts humides de l'Est, les hauts plateaux granitiques du Centre, qui sont parfois surmontés de massifs volcaniques, et puis les savanes, les collines sédimentaires de l'Ouest. En fait, Madagascar appartient au groupe des pays les moins avancés selon l'ONU et on a entendu un petit peu une présentation des raisons de cette pauvreté. Alors, Claire Caboret, vous êtes originaire, vous, de Madagascar ou bien vous avez rejoint le GRET de façon choisie et pourquoi ? Quels sont les bonheurs, les difficultés et pourquoi pouvez-vous un peu nous présenter, vous présenter à nous ?
Eh bien, je ne suis pas originaire de Madagascar, je suis franco-burkinabé. En fait, je suis française d'origine et j'ai vécu une grande partie de ma vie au Burkina Faso. Donc le Burkina, c'est un pays du Sahel, hein, entre le Mali et le Niger. Et donc, mon mari étant burkinabé, j'ai eu la nationalité burkinabé, donc c'est pour ça que je suis franco-burkinabé et je travaille pour le GRET depuis 2005, donc tout d'abord au Burkina Faso et maintenant je suis à Madagascar depuis 7 ans. Madagascar est un pays vraiment magnifique et les gens sont vraiment très accueillants et j'ai beaucoup de plaisir à être à Madagascar.
Alors, c'est un pays, aujourd'hui, vous êtes donc membre du GRET, hein, et racontez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette organisation du GRET. Hein.
Alors, le GRET, c'est une ONG internationale qui est basée en France, qui existe depuis une cinquantaine d'années. On fête nos 50 ans cette année, d'ailleurs. Et c'est une ONG qui intervient dans une trentaine de pays pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, tout en préservant l'environnement. Donc on travaille sur beaucoup de sujets, hein, notamment les services essentiels, hein, comme l'eau potable, l'électricité, l'assainissement, mais aussi la protection de l'environnement, la nutrition, le développement économique, l'urbain, etc. On a beaucoup de thématiques. Et ce qui nous distingue un peu, c'est que on construit beaucoup avec les communautés locales, les autorités, le secteur privé. On est vraiment ancré dans les territoires dans lesquels on intervient. Et généralement, on essaye de rester sur un temps long. Il y a certains territoires où on est 10 ans, 15 ans, 20 ans, où on construit dans la durée avec les populations locales pour vraiment trouver des solutions adaptées au contexte.
Et alors, vos équipes à Madagascar sont majoritairement locales, ce ne sont pas seulement des gens qui viennent de l'international.
Oui, oui, tout à fait. Nos équipes sont majoritairement locales. Nous avons, par exemple, à Madagascar, nous sommes 150. Et actuellement, je suis la seule salariée expatriée. Il y a trois volontaires aussi dans l'équipe, trois volontaires français. Donc, ce sont des équipes essentiellement malgaches qui sont, pour la plupart, depuis longtemps au GRET, donc qui ont vraiment une très forte expertise dans leur domaine.
Donc, est-ce que les gens passent par le GRET ou pour avoir un emploi d'ingénieur, par exemple, ou d'agronome, ou bien est-ce que ce sont des gens que vous formez et que vous gardez?
Alors, en général, chacun a un cursus particulier. Bon, on travaille avec des agronomes, des sociologues, des urbanistes. Enfin, voilà, les profils sont très, très diversifiés. Et il y en a certains qui rentrent au GRET juste après l'école. Peut-être certains commencent par un stage ou par un premier emploi. Et après, petit à petit, ils gravissent un peu les échelons, de plus en plus de responsabilités pour arriver jusqu'à être chef de projet, etc. Après, il y en a certains qui décident de quitter le GRET pour avoir d'autres expériences. Ça arrive, bien sûr. Et puis, parfois, on peut aussi recruter des gens qui ont déjà de l'expérience. Mais il y a certaines personnes au GRET, notamment à Madagascar, qui ont fait toute leur carrière au GRET et qui ont grandi en termes de responsabilité.
Est-ce que vous avez alors des difficultés actuellement? On sait qu'au niveau international, il y a eu des très grosses coupes qui ont été faites au niveau des financements. On sait aussi que l'USAID, à cause de Trump, a vécu aussi des coupes monétaires, financières importantes. Est-ce que vous avez eu une répercussion dans vos recherches, dans vos travaux?
Oui, tout à fait. Alors, l'arrêt des financements de l'USAID nous a un petit peu impacté, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui nous impacte beaucoup plus, c'est la baisse des financements français et européens, puisqu'on travaille beaucoup avec ce type de financement. Et c'est une période très, très difficile pour nous. Et ça nous oblige à faire des priorités sur des projets qu'on doit arrêter, d'autres qu'on essaye de poursuivre un petit peu avec les moyens dont on dispose. Donc c'est une période très compliquée pour toutes les ONG, notamment pour le GRET. Et c'est bien dommage parce que parfois on fait des choses intéressantes et on a besoin de construire dans la durée. On est obligé d'arrêter certaines interventions faute de financement.
D'accord. Alors, vous disiez que vous travaillez essentiellement sur les problèmes d'énergie et les problèmes d'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, sur l'énergie, par exemple, je suppose que très peu de Malgaches ont accès à l'énergie.
Oui, tout à fait. Alors, surtout en milieu rural. Alors, en milieu urbain, en général, les gens ont accès à l'électricité, même si, il y a beaucoup de coupures de courant parce que voilà, pour beaucoup de raisons. Mais en milieu rural, il y a une part assez faible de gens qui ont accès à l'électricité. Je crois que c'est de l'ordre de 15%. Et donc, ça limite énormément, ça a des impacts importants sur leur vie quotidienne parce que les enfants ont du mal à étudier. Il n'y a pas de frigo, par exemple, les centres de santé ne peuvent pas avoir des vaccins pour mettre dans le frigo. Voilà, c'est limite aussi beaucoup les activités économiques parce que on peut pas, il n'y a pas de poste à soudure, il n'y a pas de voilà, de, donc ça limite énormément le développement des zones et notamment les plus enclavées.
Alors, sur le plan climatique, vous vivez aussi, bien sûr, les difficultés que l'ensemble de la planète vit, de réchauffement. Mais est-ce que chez vous, ça a des répercussions plus importantes encore ?
Alors, oui, à Madagascar, Madagascar fait partie des pays qui subit de plein fouet le changement climatique. Il y a le sud malgache, qui est une région assez sèche, où l'accès à l'eau est difficile, elle est de plus en plus impactée par des sécheresses. Notamment vers les années 2020-2021, il y a eu une grosse sécheresse avec qui a eu des répercussions très importantes sur la population. Hein, il y a eu énormément de malnutrition, de mortalité infantile, etc. Et puis, il y a de plus en plus de cyclones. Alors, les cyclones, chaque année, viennent frapper le pays, notamment les côtes. Cette année, il y a eu un gros cyclone qui a dévasté Tamatav, c'est la deuxième ville du pays, et a fait énormément de dégâts matériels et aussi une vingtaine de décès.
Alors, vous travaillez surtout en relation avec les populations locales, et c'est un peu ce qui fait votre spécificité. Donc, la première chose, c'est bien sûr de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix ?
Alors, ce qui est très important, c'est vraiment de construire avec les populations locales. C'est-à-dire que on n'arrive pas avec des solutions toutes faites, mais vraiment... construire avec les partenaires qui sont sur le terrain, les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les autorités locales, pour vraiment valoriser ce qui se fait déjà, les savoirs traditionnels qui sont très forts. Hein. Il y a des règles coutumières qui régissent l'usage des ressources naturelles, par exemple. Il faut vraiment construire...
Mais donnez-nous un exemple, justement, parce que vous dites par exemple, mais donnez-nous un exemple, justement.
Alors, par exemple, à Sainte-Marie, il y a des règles qui, par exemple, protègent certains animaux, notamment les baleines, les raies, qui sont des espèces protégées traditionnellement sur l'île. Donc ça, c'est des règles fortes sur lesquelles on peut s'appuyer pour protéger l'environnement.
Ce sont des animaux sacrés. Oui.
Voilà, ce sont des animaux sacrés. Et par exemple, il y a certaines îles, donc des petites îles qui sont autour de l'île de Sainte-Marie, où traditionnellement, on n'a pas le droit de piétiner ces îles. Alors avec le développement du tourisme, ces règles sont parfois été un petit peu mises de côté. Et tout le travail qu'on essaye de faire, c'est de remettre de la concertation entre ces détenteurs de la tradition, les acteurs du tourisme, les populations locales, pour voir quelles règles finalement peuvent être, en s'appuyant sur la tradition, mais permettant également de développer aussi l'activité touristique qui est importante pour l'île, donc trouver un juste milieu pour que tout le monde finalement s'y retrouve. Donc c'est ce travail de concertation qui prend beaucoup de temps et qu'on essaye de faire à Sainte-Marie avec sur l'ensemble des 17 villages qui composent l'île.
Oui, parce qu'en plus, vous avez affaire à plusieurs ethnies, à plusieurs types de cultures. Madagascar est une île qui est extrêmement variée sur le plan de sa population.
Oui, tout à fait. Pour schématiser un petit peu, il y a deux grandes zones. Hein. Il y a les hautes terres centrales qui sont beaucoup plus froides, en altitude, avec un type de population, des cultures qui sont très variées, mais qui se ressemblent un peu, et les zones côtières qui sont plus chaudes, qui sont donc au bord de la mer, bien sûr, et avec des populations qui sont, je dirais, schématiquement un peu plus africaines, avec des habitudes qui est très différentes des hautes terres. Donc, bien sûr, quand on intervient quelque part, il faut commencer par comprendre un peu toutes ces traditions, ces cultures, pour pouvoir vraiment s'ancrer dessus.
Alors, vous travaillez donc à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est une île. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un tout petit peu, quoi ? Pas très longuement, mais un petit peu.
Alors, c'est une petite île sur la côte est de Madagascar qui est à 7 km du continent. Donc, c'est pas très loin. On y va en bateau. On met une heure de bateau à peu près. C'est une île qui fait 50 mètres de long et quelques kilomètres de large. C'est un endroit vraiment magnifique où il y a des plages, des forêts humides, des récifs coralliens. Et donc, ça a beaucoup permis de développer le tourisme. Mais ça reste un tourisme quand même assez familial. Et c'est un tourisme discret, beaucoup d'écotourisme aussi, mais qu'il faut quand même protéger parce que ça peut créer aussi des appétits d'investisseurs qui veulent venir construire des gros hôtels, etc. Donc c'est aussi à protéger. Et c'est un lieu aussi où il y a Sainte-Marie est très réputée pour le passage des baleines vers le mois de juillet. Là, ça commence en ce moment, où les baleines viennent mettre bas. Dès qu'on s'éloigne un petit peu de la côte de Sainte-Marie, c'est vraiment magnifique.
Bien. À Sainte-Marie, vous y allez régulièrement. Vous venez de nous expliquer qu'il y a un écotourisme qu'il faut absolument protéger, d'une part, parce qu'il y a des animaux qui ont une très grande importance pour la population locale. Mais est-ce que, justement, c'est ce choix de travail du Gret sur cette île qu'est-ce que ça apporte aux populations? On a un peu l'impression que c'est pour protéger l'environnement d'une manière... Alors vous savez, ici par exemple, en France, on parle de plus en plus de colonialisme vert. C'est-à-dire qu'on accuse un peu l'environnement de devenir un prétexte à la protection de terres qu'on soustrait finalement aux habitants. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment quand vous travaillez sur Sainte-Marie ?
Alors, nous, on travaille donc étroitement avec les populations locales. Donc, c'est les règles, c'est elles qui les définissent. Nous, on est là juste pour faciliter un peu le débat, la concertation des acteurs, etc. Donc, c'est vraiment les populations qui définissent les règles. Et après, tout un travail justement avec le CIRAD, pour bien comprendre l'usage des terres définir un peu les règles, voire essayer d'articuler le droit des usages traditionnels des terres avec le droit moderne. Voilà, pour vraiment tenir compte des usages traditionnels des terres. C'est-à-dire qu'on va exproprier personne, ça c'est clair. Les règles sont définies, les gens entre eux vont décider que telle zone, elle a des enjeux environnementaux particulièrement forts, donc il faut vraiment les protéger, on n'a pas le droit de cultiver là-bas, on n'a pas le droit de couper du bois, etc. Par contre, telle zone, bon, on peut cultiver, on peut couper du bois, par exemple. Mais ça, c'est les gens eux-mêmes qui définissent leurs règles. Donc on n'impose rien du tout, et puis on essaye aussi en parallèle de développer des activités économiques pour que les gens, par exemple des gens qui faisaient du charbon dans la forêt, ils puissent cultiver des terres ou faire du petit élevage pour avoir des sources de revenus additionnelles.
Est-ce que ça a créé finalement une propriété foncière aussi ? C'est-à-dire que je suppose que à Madagascar, comme dans nombreux pays d'Afrique, la terre est à celui ou à celle qui cultive. Et là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme chez nous, de propriété foncière. Donc, ce que vous faites, vous, est-ce que quand vous dites que vous faites une alliance entre les coutumes et en même temps le droit moderne grâce au CIRAD, est-ce que à terme, cela va créer de la propriété foncière pour les habitants de Madagascar ?
Alors non, enfin, on ne fait que reconnaître les usages qui se pratiquent à Sainte-Marie. Alors il y a des terres qui appartiennent à la commune, par exemple. Il y a des terres domaniales et il y a des terrains privés, même si c'est pas borné, titré, etc. Mais généralement, quand même, les gens savent telle terre, elle appartient à telle famille. Il y a quand même, même s'il n'y a pas de papier, il y a quand même, les gens quand même ont un certain droit sur les terres. Donc ça ne changera pas. Enfin, c'est là-dessus, on ne va pas bousculer les pratiques.
D'accord, mais alors vous parliez, vous expliquiez également que vous pouvez servir finalement de barrage à un investisseur qui viendrait installer des grands hôtels. S'il n'y a pas de propriété foncière, comment fait-il ?
Alors oui, en milieu plus urbain, il y a des titres fonciers. Et si un opérateur privé hôtelier s'installe, évidemment, il a besoin d'un papier. Donc là oui, mais là je parlais plus du milieu rural où les détenteurs de terres n'ont pas forcément une parcelle titrée, bornée, etc. Parce que ça coûte très cher d'avoir un papier vraiment légal.
Très
donc
bien. Propriété. Oui, pardon, je vous interromps un petit peu. En fait, vous me dites également, vous m'aviez dit également quand nous préparions cette émission que la pêche était un des piliers vitaux de l'île et qu'il fallait vraiment s'intéresser aux pêcheurs.
Oui, tout à fait. Il y a à peu près 60% des habitants de Sainte-Marie qui vivent de la pêche. Et c'est une ressource qui tente à diminuer. Donc, c'est important de la protéger. Alors, là encore, on n'interdit rien du tout. Enfin, ni nous, ni même les règles locales. Mais c'est certaines règles, par exemple, pour ne pas pêcher avec des filets, avec des mailles trop petites, qui fait qu'on va prendre même les bébés poissons, quoi. Donc ça, par exemple, c'est une règle. Il y a peut-être certaines zones où, à certaines périodes de l'année, on va interdire la pêche parce qu'on sait que c'est la période de reproduction. Et donc, sur cette zone-là, par exemple, ça ne touche pas toute l'île, hein, mais c'est une zone bien déterminée, on va permettre aux poissons de se reproduire pour qu'il y ait plus de poissons. Donc ça, toutes ces règles-là, pareil, elles sont définies par les pêcheurs eux-mêmes, quoi, qui connaissent les enjeux et donc ils décident ensemble de dire pour l'intérêt commun, il faut laisser les poissons se reproduire et laisser les petits poissons aussi grandir.
Très bien. Et alors, c'est cela qui va finalement vous permettre de décider de créer cette aire marine terrestre protégée que vous souhaitez, qui donc ferait au total 265 000 hectares et qui sera mise en protection temporaire. Elle va rejoindre les grandes aires marines protégées.
Oui, tout à fait. Donc là, actuellement, donc on en est au stade de la protection temporaire. Hein. C'est une étape avant vraiment l'officialisation de l'air protégé, parce qu'il y a encore un peu des études à faire, des concertations entre entre les habitants de l'île. Mais d'ici 2 ans, normalement, si tout va bien, l'air protégé sera officiellement, sera officiel.
Très bien. Alors, il nous reste 3 minutes. On va donc parler de votre deuxième projet, c'est-à-dire l'électrification rurale. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement à l'essentiel. Donc, vous nous avez expliqué qu'on était sans électricité en milieu rural et forcément, donc, vous nous avez expliqué tous les problèmes que cela posait. Maintenant, comment conduisez-vous cette électrification rurale ?
Alors en fait, on a deux stratégies un peu. Hein. Dans les grosses communes, l'idée c'est de construire des barrages hydroélectriques pour que les gens aient accès à l'électricité chez eux à domicile. Mais ça c'est possible que dans les gros bourgs. Pour les petits villages un peu éloignés, on développe des plateformes solaires où les gens peuvent venir recharger leur téléphone ou recharger leur lampe solaire et puis avoir accès à certains services comme un poste soudure ou un réfrigérateur, etc. Donc, on combine les deux approches pour que vraiment tout le monde puisse avoir accès à l'électricité.
Alors, vous travaillez en même temps sur les barrages hydroélectriques, vous faites en sorte aussi, bien sûr, qu'on ait de l'eau. Et pour avoir de l'eau, il faut lutter contre la déforestation des bassins, des versants.
Tout à fait. Donc, on va mettre en œuvre sur les bassins versants toute une stratégie de protection de l'environnement, de reboisement, de techniques agroécologiques pour essayer de ralentir l'érosion de l'eau et de favoriser l'infiltration de l'eau pour que le barrage soit toujours alimenté dans les années à venir.
Et quel est le principal problème que la forêt malgache ou les versants ou les sols malgaches rencontrent ?
Eh bien, c'est en fait, tout est lié beaucoup à la déforestation. Hein. Les gens coupent les arbres pour faire du charbon, pour aller vendre en ville le plus souvent, ou pour pouvoir faire de l'agriculture sur ces parcelles. La population augmente énormément, le taux de natalité à Madagascar est élevé, et donc c'est cette pression en fait qui fait que de plus en plus les terres se déboisent, et du coup c'est l'érosion qui arrive, et avec tous les maux qu'on connaît.
Alors, on a rencontré pas mal de difficultés techniques. Malheureusement, vous avez un millier d'autres choses à nous dire. Sachons que, en tout cas, le GRET travaille dans cette région comme il a l'habitude de le faire, en tenant compte des populations locales. Si vous aviez un dernier mot, ce serait...
Je dirais qu'il faut soutenir les initiatives locales parce que les communautés, elles sont tout à fait capables, si on les accompagne un peu, de protéger leurs forêts, leurs océans, leurs sols et de développer leurs communautés. Donc il faut vraiment construire avec les populations pour préserver un avenir commun.
Merci Claire.
Je vous en prie.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.